Ce sont des seniors. Qu'ils fassent partie du 3e, du 4e ou du 5e âge, elles et ils témoignent de leur vécu, de leur expérience, de leur vision du monde. Ce monde qui est aussi notre patrimoine vivant. À l'abordage, une émission proposée par Sarah Hautesser. Three flops in a row. It feels the flow. Yo-ho, yo-ho. He's the man. He's the man who never stops. À l'abordage, aujourd'hui avec Martine. Martine, bonjour. Est-ce que vous avez une idée de ce dont nous allons parler durant cet entretien?
Mais oui, je pensais qu'on allait un peu parler de ma vie.
Est-ce que je peux d'abord savoir votre âge?
Bien sûr, j'ai 77. Voilà, 7-7.
Vous êtes à la retraite?
Oui, je suis à la retraite depuis 3 ans seulement.
Comment ça se fait que depuis 3 ans?
Ben, parce que dans mon métier, on travaille jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie de travailler. Voilà. J'étais psychanalyste et j'ai voulu absolument quitter ce métier pour aller vivre dans la campagne, une campagne profonde.
Qui est laquelle?
C'est l'Aveyron.
Mais vous êtes originaire d'où?
Ah, je suis tourangelle. Je suis née près de la Loire, dans le pays des rois de France, où on disait qu'on parlait le meilleur français. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de venir dans le sud, et dans la région de Toulouse, en dessous de Toulouse, parce que c'était un autre monde que j'avais envie de découvrir.
Alors, Martine, si je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour s'activer, comment s'organise votre temps aujourd'hui?
Oh là là! Oui, ben, je viens à Toulouse quelques week-ends. Bon, et surtout, je passe une semaine par mois à Paris pour m'occuper de mes petits-enfants.
Ah, ben alors vous avez combien de petits-enfants?
J'ai 2 petits-enfants qui sont tout petits, un de 2 ans et un autre qui a 10 mois. Et ma fille habite Paris, voilà.
Vous les voyez souvent?
Je dis une fois par mois, je passe une petite semaine, hein, parce que ma fille désire que je les connaisse, et moi ça me fait aussi plaisir de m'en occuper, de les chercher chez la nourrice, de jouer un peu avec eux, et que quand je les vois, ils savent que je suis leur grand-mère, et ça, ça me fait très plaisir.
Est-ce que vous faites une activité physique?
Eh oui, je fais même pas mal d'activités physiques. Parce que là-bas, dans l'Aveyron, si je n'ai pas une activité chaque jour, je pense que je me déprimerai un peu. Alors, je fais de la gymnastique, je fais du yoga, et puis je fais de la rando. Bon, ça fait déjà pas mal.
Assez régulièrement, alors?
Oui, oui, toutes les semaines. Mes jambes marchent bien. La tête, ça, c'est autre chose, mais mes jambes marchent très bien.
Et vous avez toujours été comme ça, assez sportive, on va dire?
Active, sportive, bon, je m'occupe de mon corps, oui, j'aime qu'il soit en mouvement, mais je ne fais pas des sports extraordinaires ni compliqués. Hein.
Et au niveau de la tête alors? Si, quand même, vous avez quand même une activité cérébrale,
oui,
si j'ai bien compris.
Oui, je trouve que la mémoire, elle s'en va des fois, elle oublie, il paraît que c'est l'âge, que c'est normal, mais ça fait un drôle d'effet quand on oublie ses courses, qu'on n'a pas acheté ce qu'on avait décidé. Enfin bon, il ne m'est rien arrivé d'énorme, mais des petites choses comme ça qui ne m'arrivaient pas avant, c'est déjà difficile à supporter.
Ah, ça, vous en êtes rendu compte alors?
Ben oui, parce que je me disais, ma liste de courses, j'avais acheté ça, et puis je rentre et me dis, ben j'ai oublié ça, tiens, et ça ne m'arrivait jamais, enfin... J'étais beaucoup plus présente. Mais c'est aussi le fait que je suis plus présente à ce qui m'entoure, à la lumière, dans un magasin, à des choses qui me plaisent, etc. Donc j'oublie.
Si je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour s'ausculter, est-ce que vous faites attention à votre santé?
Ben oui, puisque je fais des activités physiques, ah oui, ça, je fais attention. Si j'ai quelque chose, j'ai une certaine inquiétude quand même, je fais attention. Ouais.
Vous n'êtes pas le genre, hypochondriaque?
Non, mais enfin, je fais aussi attention. Mais ma santé, elle va bien, donc.
Est-ce que vous faites aussi attention à votre alimentation?
Bien sûr que c'est important, et c'est même très important, parce qu'en Aveyron... pour regarder son poids, il faut vraiment faire très attention. Et je dois dire qu'en l'espace de 2 ans et demi, là, je n'ai pris qu'un kilo. Bon, et ça, c'est vraiment pas beaucoup, hein, parce que... Et moi, je fais très attention. Mon mari, qui est du coin, fait beaucoup moins attention et prend beaucoup plus de kilos, et je trouve pas ça drôle du tout. Mais on dirait que c'est dans la nature. Bon, moi, je n'étais pas habituée à ça, mais je suis gourmande. Alors, les bonnes choses, bon, je me réjouis quand il y en a. Mais je fais attention, je mange le plus de légumes possible, on mange moins de viande. Bon, puis je bouge, donc ça reste pas dans mon corps, voilà.
Donc, vous vivez avec votre mari, hein ?
Oui, mon mari qui, lui, c'est pour ça que je suis venue dans l'Aveyron. Parce que lui est de ce coin-là, et quand il a pris sa retraite, lui, avant moi... Et il a eu envie de retourner dans son pays. Nous avions une maison où nous allions chaque été. Avec la retraite, nous y vivons ensemble, tous les deux. C'est ça le changement. C'est dans un hameau, loin du village. On est obligé de prendre la voiture pour y aller. Enfin, mais en même temps, on est dans la lumière, on a une vue extraordinaire. Et je suis beaucoup moins active là-bas parce que je m'assois et je regarde le paysage. Parce qu'on a une grande verrière, donc je regarde les nuages passer, je trouve que c'est extraordinaire, je regarde les oiseaux, je vois les plantes, enfin bon. Je fais moins d'activité intellectuelle, parce que je... Oui, c'est ça, je fais partie du paysage, c'est curieux.
Très contemplative.
Oui, sans doute, c'est ça, oui.
Vous parliez de lumière, j'imagine que vous êtes assez attiré par l'œuvre de Soulages, peut-être ?
Ah ben, alors le noir de Soulages, bon, enfin j'aime beaucoup Soulages, bien sûr que je l'ai vu, qu'on regarde chaque année, encore qu'au musée de Rodez, c'est pas les œuvres les meilleures qui soient. Hein. Mais bon, bien sûr que je suis ça. À Paris, j'allais dans les expositions. J'y retourne aussi quand je vais à Paris. Mais c'est vrai que mon goût, j'ai changé parce que je m'intéresse plus aux plantes, aux fleurs.
Vous avez un jardin ?
Oui, on a un jardin et j'essaie de m'en occuper, d'avoir le minimum de petites choses. J'ai essayé de planter des légumes, tout ça, mais on est sur du roc, on est sur du rocher. Ça marche pas. Alors tant pis, ça, j'abandonne les légumes. D'abord, ça demande beaucoup d'eau et je trouve que c'est pas correct. Bon, mais j'ai par contre des fleurs. Ça, oui, je les soigne, mes fleurs.
Et votre mari, qu'est-ce qu'il faisait, lui, si c'est pas indiscret ?
Mon mari est architecte, il était prof dans une école d'architecture, principalement. Et là, maintenant, il fait partie du conseil municipal. Ah. Bon, et ça le passionne et... Dès qu'il y a quelque chose à construire, enfin à dessiner, bon, il est là, et donc c'est sa vie aussi, c'est bien. Et puis, surtout, lui, il chante. Ah oui, moi aussi, je chante un petit peu.
Ah, mais, dans une chorale ?
Oui, une petite chorale minimum. Hein. On chante des chants courants, enfin, on s'amuse un peu. Parce que lui, il chante, là, il va chanter le Requiem de Mozart, il va... Bon, alors il répète énormément. Bon, c'est bien. Il n'est pas dépendant de moi. Je ne suis pas dépendante de lui. Ça fait du bien.
Oui, mais alors là, Martine, on est chez vous à Toulouse. Qu'est-ce que vous y faites à Toulouse ?
Alors, à Paris, j'ai vendu mon appartement. Et dans mon appartement, j'avais tous mes meubles qui venaient de mon enfance, ma mère étant antiquaire. Bon, j'avais beaucoup de meubles que j'aimais, et puis aussi beaucoup de livres, et beaucoup de photos, et beaucoup de... Bon, des tableaux, enfin, j'avais ma vie là-bas. Et notre petite maison là-bas dans l'Aveyron ne pouvait pas recevoir tout ça. Et comme j'avais la possibilité de le faire, puisque l'appartement que j'ai vendu à Paris et celui que j'ai acheté à Toulouse, c'était la moitié du prix, donc je peux avoir le luxe d'avoir un appartement ici à Toulouse, que je n'utilise pas très souvent, que je viens pour certains week-ends, etc., mais que j'ai énormément de plaisir à retrouver. Et je me dis que dans quelques années, peut-être que l'Aveyron, j'en aurai assez et que je viendrai m'installer à Toulouse. Voilà. Bon, pendant que je viens une fois par mois aussi à Toulouse, je travaille avec des collègues. Bon.
Ah, vous êtes toujours en lien, oui.
Voilà, puisque j'ai quand même une formation assez longue, et donc les gens qui débutent, Et profite des connaissances que je peux avoir. Et moi, ça me fait plaisir de les partager.
On va y venir. Si je vous dis, il n'y a pas d'âge pour s'informer, Martine, est-ce que vous vous tenez informée de ce qui se passe dans le monde?
Oh là là. Eh oui, évidemment. Et c'est ça même qui me bouleverse, parce que je n'ai jamais été aussi présente à ce qui se passe dans le monde que dans mon petit bout d'Aveyron, là-bas. Bon, je lis les journaux, je suis abonnée au Point, je suis abonnée à des... qui arrivent chaque semaine et je lis, je passe beaucoup de temps. Et surtout, je suis très préoccupée par l'Europe en ce moment. Enfin, je vois le monde qui change, j'essaie de comprendre, de me faire une idée avec mon âge, de voir les jeunes, comment ils fonctionnent. Je suis très présente à la vie mondiale même, d'ailleurs. Oui.
Est-ce que la politique vous intéresse ?
Oui, m'intéresse. Bon, c'est surtout le monde social qui m'intéresse. Les gens, ce dont ils parlent, ce qui les fait souffrir, ce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Mais aussi, bon, je vous dis, dans l'Europe, quand je vois ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire les gens qui se rétractent sur leur petite identité, ça me fait un mal fou. Et en même temps, c'est contradictoire, parce que c'est compensatoire avec le fait qu'avec son smartphone, on est partout. On a toutes les nouvelles, on peut être en communication avec tout le monde. Et en même temps, quand on prend des décisions, c'est « Ah oui, mais notre village, ah oui, mais notre pays. » Bon, c'est un monde difficile. Et pour les jeunes, je me dis, ça m'a demandé une culture, une compréhension et qui ne se laisse pas aller avec simplement « Ah oui, on a dit que... » Et puis alors, les Facebook...
Fake news.
Voilà, bon. Alors là, aïe, 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 c'est génial. Bon, ce qui me surprend aussi et qui me désole, c'est quand je suis dans le train, puisque je le prends chaque mois, et que c'est assez long le train pour Paris, et que je vois ces jeunes avec leur ordinateur en train de regarder des films, etc. Il y a très peu de jeunes qui lisent. Il y en a quand même quelques-uns, oui, qui ont lu des livres. Mais comme s'ils étaient toujours dans le monde extérieur et pas en eux-mêmes. Je me demande ce qu'ils vont faire. Bon, je me dis qu'ils vont aussi s'adapter, être capables de raisonner. Enfin, j'espère, mais je ne sais pas.
Et vous, quelle est votre utilisation d'Internet?
Oh, bah alors là, minimum. Hein. Minimum.
C'est quoi, c'est les mails?
Oui, je fais des mails. Et, bon, et quand je ne connais pas quelque chose, je fais Wikipédia et puis je regarde. Bon, c'est tout. Ah non, et ça, je suis nulle de nulle. Heureusement que j'ai mon mari, si jamais il y a un problème, qui m'indique ce qu'on peut faire. Enfin non, non, ça, je ne suis pas Internet, du tout.
Donc vous, c'est plutôt les journaux. Est-ce que c'est radio, oui. Télé aussi ou pas?
Ah oui, la radio aussi, France Inter, France Culture, bon. Surtout d'ailleurs, bon, mais on se bagarre avec mon mari. Chacun écoute son émission, l'heure qui convient, enfin bon. Je suis très présente à ce qui se passe au monde, puisque j'ai beaucoup plus de temps maintenant et moins de préoccupations de personnes dont je m'occupe, puisque je ne m'occupe pas de gens en particulier, que je n'ai pas de soucis. Donc, j'écoute ce qui se passe.
Est-ce que vous étiez engagée politiquement plus jeune? Féministe, je ne sais pas.
Non, je n'ai pas été... bien sûr que je suis pour les femmes, mais, non, mais surtout dans mon métier de psy, je les ai aboutées, les femmes à être sûres d'elles, etc. Mais aller manifester, à prendre des positions, non, ça, non.
Je vois chez vous des programmes de l'American Cosmographe, et donc je voulais savoir, est-ce que vous sortez beaucoup au cinéma, au théâtre?
J'allais beaucoup au cinéma, au théâtre, j'adore ça, et le théâtre ici, j'en profite, mais souvent, quand moi je suis en vacances, ils sont aussi en vacances, Toulouse, c'est quand même une pas si grande ville que Paris. Mais je dois dire qu'en ce moment, quand je regarde les films, ben je vois les soucis, les conflits. Et ça, je n'ai pas envie. Parce que justement, je le perçois partout. Et je n'ai pas envie qu'on me le raconte dans des films. Il y a quelques films qui m'ont passionnée. Évidemment, j'ai été très occupée par la pédophilie. Des prêtres, là, et puis le Grâce à Dieu, c'est le film le plus beau que j'ai vu, là, de ces derniers temps, parce que c'est d'une justesse extraordinaire, profonde, et que tout ça, ça me préoccupe, parce que J'ai eu une formation chrétienne depuis mon enfance, c'est bon.
La majeure partie des films parlent des faits de société.
Oui, c'est ça, Donc, je ne vais plus au cinéma. De toute façon, au cinéma, il faut que j'aille à Toulouse pour le cinéma. Bon, on doit dire qu'on regarde pas mal la télé et que j'ai des DVD, qu'on regarde des films anciens, puis des opéras, puisque mon mari est très branché aussi. Enfin, lui, il est musicien, il connaît la musique. Bon, puis moi, je l'écoute, j'ai le plaisir avec l'oreille, mais je ne connais pas grand-chose.
Hein. Est-ce que vous lisez beaucoup ?
Je lis pas mal, oui.
Qu'est-ce que vous lisez ?
Ben là, je suis dans un livre de Boris Cyrulnik que j'ai vu à la grande librairie, qui m'a tellement passionnée que je l'ai acheté. Parce que là, il aborde une question qui est... Enfin, justement, une réponse à des questions que je trouve très intéressantes. Bon, puisque j'ai tout passé ma vie dans les histoires de souffrance des humains, hein, des femmes, des enfants. Parce que oui, j'ai travaillé avec des enfants hein, dans un CMPP, c'est-à-dire centre médico-psychopédagogique, pendant... longtemps. Et là, ce qu'il ouvre comme perspective, c'est le travail aussi du cerveau. C'est que ce qui a été touché pendant l'enfance par un traumatisme, bon, par une mère qui ne s'occupe pas de l'enfant et qui n'active pas ces zones du cerveau et qui font que l'enfant se crispe, se bloque et que dans son évolution, il y a quelque chose qui est barré. Et ça, c'est très intéressant. Bon.
Vous continuez de lire des ouvrages qui sont en rapport avec votre métier ?
Ça se trouve comme ça. J'ai lu un autre livre de Pamuk, La fille aux cheveux roux. Un livre d'un auteur turc que j'ai trouvé passionnant. Et c'est intelligent, c'est fin, c'est bon. Et puis aussi, bien sûr, psychologique. C'est-à-dire, les personnages, je peux les retrouver, mais ils sont... et c'est très bien écrit. Donc ça me plaît beaucoup aussi de lire ça.
Est-ce que vous avez toujours été une grande lectrice ? Vous êtes venue avec l'âge parce que vous aviez plus de temps ?
J'ai plus de temps maintenant, surtout pour les journaux. Mais j'ai toujours lu un peu, ça c'est sûr.
Vous en aviez le loisir avec votre métier ?
Oui, des choses aussi très différentes pour me divertir.
À propos de divertissement, si je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, est-ce que vous faites encore des voyages ?
Alors, j'ai pas mal voyagé. Mais mon mari, c'est un sédentaire, et donc ça m'embête, ça me fait souffrir un peu là, d'être bloquée, il ne peut pas quitter. Et en même temps, je me dis, c'est pas grave, j'ai vraiment voyagé quand j'étais jeune, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas voyager. Et j'ai surtout fait des voyages dans le désert avec un prof de Qigong. On allait passer 15 jours, 3 semaines dans un désert. On a été au Maroc, on a été en Libye. Ça a été une chance inouïe, c'était avant les problèmes politiques. On a été au Népal aussi, donc ça c'est des... Et quand je revisite ça dans ma tête, je me dis, mais j'ai une chance inouïe, c'est formidable d'avoir fait ça. Parce que maintenant, quand je vois les voyages, j'ai fait aussi des voyages avec des groupes, mais ça m'embête. Oh là là.
Oui, vous avez testé aussi les voyages organisés.
Oui, c'est ça. Ça coûte moins cher, c'est bien. On visite des villes, on visite des églises, on visite des monuments, mais on est tous ensemble, on est là. Bon, je ne vais pas dire que ça vaut rien, mais quand même...
Et qu'est-ce que vous trouviez dans le désert ?
La solitude, le rapport à soi-même, la solitude de la nature, mais c'est ce que j'aime puisque je reviens dans l'Aveyron. Mais c'est aussi le professionnel avec le travail corporel, le Qigong, c'est la verticalité, hein, être capable de garder dans sa verticalité. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en bonne santé là aussi. C'est que j'ai fait ça toute ma vie, adulte. Et découvrir des endroits qui sont sauvages. J'ai été aussi en Syrie, voir une amie qui était là-bas. Et puis tous ces monuments qui ont explosé, là, qu'on a détruits. C'est... En même temps, quand je lis des choses sur l'histoire, je vois que les violences, elles se répètent. On dirait que les cultures arrivent à un niveau de grande réussite. Et puis, il y a une explosion et ça retombe dans le trou. Et que, au fond, la violence humaine, on s'en plaint. Oh là là, c'est terrible, etc. Mais... ça fait partie de nous, c'est incroyable.
Elle a toujours été là.
Oui, et les cultures arrivent à l'apogée et puis se détruisent.
Puis reconstruisent.
Oui.
Pour redétruire.
Oui, bon.
Alors ces voyages, ça vous manque un peu quand même ?
Oui, ça me manque un peu, mais je suis vraiment contente de les avoir faits. Bon, et puis, si j'en trouvais un à faire, ben, je le referais même toute seule, enfin toute seule dans un groupe. Mais bon, mais peut-être qu'avec mon mari, je vais réussir à... Je pense que je vais réussir aussi à l'entraîner dans un endroit. Mais c'est vrai que la visite des villes m'attire beaucoup moins.
Ça serait quoi cet endroit, justement?
Je ne sais pas, là. Déjà dans l'Aveyron, il y a des petites villes à visiter, il y a des choses intéressantes à faire. Seulement, il faut les faire à la bonne saison. Quand je suis arrivée, je croyais, moi, l'hiver, je me disais, samedi, dimanche, on est libre, allez, on va visiter telle ville, on va se trouver un petit restaurant pour... Des... Bon, ben, tout était fermé.
Oh ah oui, c'était pas Paris.
Non, c'est pas Paris, mais c'est même pas la Toulouse. Enfin, c'est même pas une ville. C'est... Bon. Donc, il a fallu s'habituer à autre chose. Bon. Mais il y a des fêtes aussi dans les villages. Il y a des fêtes. Il y a quand même quelques conférences qui sont très bien. Hein. Villefranche, et puis... Bon, enfin, j'essaie de profiter de maximum.
Alors, Martine, si je vous dis il n'y a pas d'âge pour s'entraider, est-ce que vous donnez de votre temps libre à qui?
Alors, justement, ça, je pensais que j'allais pouvoir participer à des associations. Mmh. Bon,
mais c'était ma question.
Ben, ça ne s'est pas trouvé aussi simple que ça, parce que je suis dans un village à 15 km de Villefranche, qui est la ville principale, et je voulais, par exemple, participer à un groupe sur les migrants, au niveau de la langue, au niveau aussi psychologique, essayer d'aider. Eh bien oui, mais les rencontres se faisaient toujours le jour où je devais aller chanter à ma chorale. Donc, j'ai pas pu faire partie d'un groupe. Et ce que j'ai fait, c'est que je donne des sous et que je suis au courant de ce qui se passe. Et quelqu'un, il y a une manifestation un petit peu plus importante, j'y vais. Mais pour aider des gens, pour être proche, j'ai pas trouvé de... Et puis, c'est vrai aussi que je me suis dit, toute ma vie, je m'en suis occupée, et qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait ne plus avoir cette attitude trop d'écoute de l'autre. Il fallait que j'arrête. Parce que, je parle pas au passé, parce que ça existe toujours, j'ai forcément une façon particulière d'aborder les gens, de les regarder, de poser des questions, qui fait que je les intimide. Ben, je ne sais pas parler, je sais pas quoi, de ce que j'ai mangé à midi, de je sais pas quoi, le temps qu'il fait, enfin bon, les choses banales et tout ça. Je sais pas faire ça trop, moi. Bon, enfin, je m'y mets quand même petit à petit. Donc, on me regarde un petit peu comme l'intello du coin, là.
Dans les associations ou dans le village?
Dans les associations, c'est dans les groupes. Je ne participe pas activement. Mais ce n'est pas par désintérêt. Et c'est pas, je suis tout ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose que je peux faire, je le fais. Bon.
Il y a une grosse activité, là, vous êtes sur justement l'arrivée des migrants. Oui.
Il y en a quelques-uns, mais ouais. Vous savez, là-bas, on n'est pas encombré quand même. Hein. Non, à Villefranche-Roi, il n'y en a pas des masses. Hein.
Alors, si je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour partager, est-ce que vous ressentez le désir, le besoin de partager un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, votre expérience, votre vécu, et avec qui?
Ben, c'est pas simple du tout, parce que mon vécu, il est quand même compliqué. Non, j'intimide. J'ai quelques amis avec qui je peux le partager, mais non, je pense que j'ai un regard quand même assez particulier sur la vie qui fait que ça, c'est pas simple, ça.
Et votre expérience, par ailleurs, de psychanalyste, vous la partagez avec des futurs psychanalystes?
Oui, ben ça ces futurs psychanalystes, ils sont ravis, ça les aide beaucoup et ils me réclament. Bon,
mais c'est dans quel cadre, en fait?
C'est dans le cadre de la société dont je fais partie. Et c'est des jeunes qui veulent en faire partie aussi. Et donc, moi, comme je suis une vieille, là, et que j'ai de l'expérience, je peux faire une attestation comme quoi, ils ont parlé de leur cas, que j'ai pu reconnaître ce qu'ils faisaient comme travail. Donc, ça leur sert pour arriver à faire partie de cette société, de faire partie d'être reconnu comme psychanalyste, voilà, jungien.
Et est-ce que vous parlez de votre vécu, de votre enfance, est-ce que vous en parlez avec votre fille, avec vos petits-enfants?
Alors, mes petits-enfants, ils sont trop petits, mais ma fille, ma fille, elle n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de ça, mais elle le sait, mon histoire. On vient de passer un week-end en Touraine avec elle et donc je vais faire visiter où je suis née, où j'ai vécu, mon école et ce que j'ai fait. Tout ça lui fait plaisir. Mais elle sait très bien puisque j'en parle de temps en temps, mais il faut pas revenir trop sur les choses difficiles. Et puis elle fait sa vie. Je n'ai eu qu'elle. C'est exceptionnel dans ma famille parce que c'est une famille où j'en ai une trentaine de neveux. Ben oui, bon.
Ah, vous êtes nombreux dans la famille?
Ah oui.
Vous avez combien de frères et sœurs?
Alors, je suis la huitième de huit, voilà. Je suis la dernière.
Comment s'appellent vos petits-enfants? Je ne vous ai pas demandé.
S'appelle Thomas et Paloma.
Alors, qu'est-ce que vous partagez avec eux quand vous les
Non,
voyez
mais
à Paris?
ils sont tellement petits que Thomas, qui a 2 ans et demi, parce que Paloma, je l'ai encore dans les bras, et bon. Mais on va au jardin, on regarde, et puis après, on rentre à la maison, je fais des petits puzzles. Puis surtout, avec lui, ce que je fais, c'est que je l'emmène dans un magasin et que je lui dis, ça, ce sont des pommes, ça, ce sont des oranges, et comment tu appelles ça? Bon, parce qu'il va pas trop vite dans les mots. Hein? Les fils vont plus vite que ça. Et puis lui, il sait très très bien jouer avec les choses. Il est très très précis. Il sera scientifique, je pense. Ouais. Donc ensemble, je lui nomme tout ça. Et puis il me répète. Et puis bon, puis la fois d'après, il y en a qui viennent tout seuls. Et puis bon, c'est ça ce qu'on fait ensemble avec mon petit-fils. Bon.
Comment il vous appelle?
Grand-mi. Je suis grand-mi.
N'a pas été un passage pour vous un peu difficile d'être
Non, pas du
grand-mère?
tout. Alors là,
Non.
pas du tout. Il était tant attendu que... Oui, ça c'est...
Est-ce que vous vous souvenez des rapports, des liens que vous avez avec vos grands-parents?
C'est pas connu. Je suis la huitième. Je suis née 10 ans après le numéro 7. Donc, je n'ai pas connu mes grands-parents et j'ai pas connu mon père. Alors comme ça...
Ah bah justement, j'allais vous demander quel lien vous aviez avec vos parents, puisque avec vos grands-parents, vous
Bon,
n'avez pas
alors là,
connu.
vous abordez le sujet le plus difficile pour moi, pas difficile, je veux dire le plus traumatique pour moi, c'est que, en fait,
Mais si vous voulez pas, vous
non,
le
non,
dites. Ah, ouais.
mais je veux, si, je veux, au contraire, puisque je pensais commencer par ça, qui était le début de ma vie, parce que c'est le sens de ma vie, et il s'inscrit dans mon vécu. Bon, j'ai été conçue après le retour de ma mère qui est allée s'occuper de sa fille aînée parce que quand je suis née, j'étais déjà tante. C'est-à-dire que ma sœur aînée avait déjà 2 enfants. Voilà. Et je suis née 9 mois après le retour de ma mère chez sa petite fille où elle s'est occupée de sa petite fille. Donc je pense que mes parents aimaient les enfants. Hein. Bon, ça c'est sûr. Bon, mais 10 ans après, c'était quand même assez douloureux pour ma mère. Ça, elle n'en pouvait plus. Hein, ça, bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, c'était pendant la guerre. Hein, et pendant la guerre. Donc, quand j'ai eu 10 mois, un jour, mes parents donc avaient une maison d'objets d'art, décoration, tout ça en plein centre-ville. Un soir. Quand toute la famille était là, enfin mes soeurs, dans le salon, ça sonne et les Allemands sont arrivés et ont demandé à mon père de faire une valise et de s'en aller, de venir avec eux. La Gestapo l'arrêtait. Donc, on raconte que j'étais dans les bras de mon père et que, bon, donc à partir de ce moment-là, il était arrêté et ensuite il était en camp de concentration, il est mort là-bas. Et donc, la vie, c'est. 10 mois, c'est un peu jeune, hein? La vie s'est complètement bouleversée dans la famille. Bon, en plus, ma mère était seule pour travailler dans le magasin, donc, enfin, y avait plus. On m'oubliait. Mes sœurs,
Oui,
la
la
plus
plus
grande avait
âgée.
déjà 10 ans, et les autres, elles étaient étudiantes, il y en avait qui travaillaient, qui faisaient leur vie, qui étaient déjà mariées. Donc là, il y a eu un bouleversement dans ma vie qui a été assez difficile, assez douloureux, assez traumatique, et qui m'a conduit, moi, à faire mes études de psy, à essayer de comprendre un peu ce qui m'est arrivé. Surtout que, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, ma mère ne savait pas pourquoi mon père avait été arrêté. Et c'est, j'allais dire, grâce à moi. Un jour, dans le magasin, je revenais de l'école, j'avais 6 ans. Et un monsieur qui était là en train de faire un achat dit à ma mère: Oh, mais elle ressemble à son père. Et ma mère dit, mais vous connaissez mon mari? Et il lui dit, oui, on faisait partie du même réseau de résistance. Chose même que ma mère ne savait pas. Donc c'est grâce à moi, qui ressemblait à mon père, et d'ailleurs, c'était ça aussi qui, dans la famille, était difficile, pour me regarder avec un sourire un peu triste, etc. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, j'avais une position et pas sur la terre, quoi, un peu au-dessus. Voilà. Ma vie s'est inscrite dans cette histoire-là, quand même, hein.
Votre maman, vous en parliez avec elle? Comment c'était?
Ah ben, ma mère, c'était une grande dame, et elle est très bien. Elle était... Bon, d'abord, elle a tenu son magasin, elle a fait tout ce qu'il fallait. Mais elle-même, elle a perdu sa mère très jeune, et c'est une femme qui... Femme grande cultivée, mais cette petite fille qu'elle a eue 10 ans après, bon, elle m'aimait beaucoup, il n'y a pas de question, mais elle n'avait pas de bras. Elle s'occupait de moi, elle faisait en fonction que tout aille bien pour moi. Mais elle avait marre d'être mère. Hein. C'était vraiment pas... C'était pas son activité principale. Hein. Puis surtout après le départ de mon père, alors là, elle a dû tenir le magasin toute seule, vous rendez compte.
Et vous avez cherché à en savoir plus sur votre père?
Ben, c'est pas moi qui ai cherché à en savoir plus. J'ai un frère. Oui, on était 6 filles et 2 garçons. Et dans les 2 garçons, il y avait celui qui est devenu prêtre, et qui, oui, bon, oui, et qui, lui, a fait tout un travail de recherche sur son père, et puis il l'a connu, lui. Donc, des souvenirs de son enfance, et puis de sa vie, et puis de ses rencontres, de sa vie, enfin tout ça, il a fait, bon, vraiment, il a fait quelque chose de très précieux pour nous tous, voilà. Il est très présent en moi, ce père. C'est bizarre, hein? Bon.
Vraiment... Mais vous en aviez une image ou pas?
Ah oui, complètement.
Oui, quand même, à 10 mois.
Ah, oui. Ah non, non, pas à 10 mois, oui. C'est reconstruit.
Oui, c'est reconstruit après coup. Ouais.
Voilà, c'est pas dans le souvenir. Je pense dans les photos, il y a une ou deux photos, je suis avec lui, je suis dans ses bras et je sens son regard très, très affectif. Je pense que mon père était très fier d'être père. Alors là, lui, alors que ma mère, c'est pas qu'elle était pas fière, mais elle en avait marre. Hein. Bon, puis alors là, vraiment pas. Puis en vouloir, hein, parce que franchement, c'est pas supportable. En plus de ça, maintenant, à l'âge que j'ai, je n'ai plus qu'une sœur. Puisque 10 ans de plus que moi, j'ai 77, hein, et le jour où elle va mourir, je me dis, je serai le seul témoin de mon couple familial, parental. Oh, ça me fait un choc. Mais bon, c'est la vie aussi, mais je suis fidèle à cette histoire. C'est fidèle, j'ai fait mon histoire à moi et mes réflexions, mes positions religieuses, politiques et compagnie, les miennes qui sont les miennes, mais j'ai été formée parce que l'héritage que j'ai reçu, j'en ai fait quelque chose qui est mon histoire à moi. Bon, et ça, c'est vrai que ça me touche beaucoup de me dire que je serai le dernier témoin du couple parental, Elisabeth et François.
J'allais vous demander leur prénom, ouais.
Voilà.
Quelle petite fille vous étiez?
Ben, j'étais une charmante petite fille, souriante et tout. Je réponds pas, vous posez aucun problème. Non, mais je vous dis, quand je regarde, quand j'ai des photos, là, je vois bien, il me regarde. C'est le dernier témoignage de mon père. Et alors, c'est à la fois de la joie et à la fois de la tristesse. Bon, donc, pas commode. Mes sœurs aînées, qui étaient déjà des mères, me prenaient, puisque ma mère travaillait beaucoup, j'allais chez eux, elles ont été toujours extrêmement charmantes avec moi, très gentilles. Bon, vraiment, j'ai été accueillie par tout le monde très bien.
Du coup, vos sœurs, elles jouaient un peu le rôle de mère.
Ben oui, ouais. Ben oui, enfin les sœurs aînées, oui.
Vous m'avez dit que vous aviez une éducation assez religieuse?
Oui, ma mère, enfin, on était catholique pratiquant. Bon, d'ailleurs, ça, je pense que je suis née pour ça. Hein, bon.
Comment ça, j'ai pas compris? Je suis née pour ça.
Bon, il n'y avait pas la contraception, mais enfin, de toute façon, ça ne se faisait pas non plus. Alors, donc, bon, puis plus on avait d'enfants, c'était mieux, c'était bien, enfin bref. Mais j'ai évolué là-dedans. Je me dis que je suis une chrétienne non-croyante. C'est-à-dire que je suis dans les valeurs chrétiennes, absolument, mais je ne pratique plus, je ne pratique pas. Je n'ai pas fait baptiser ma fille, ce qui est la seule de tous mes neveux. Donc c'est un choix aussi. Et en même temps, ben, elle a des valeurs chrétiennes elle aussi. Hein. Elle se donne dans des associations, elle fait des trucs. Donc, ça passe pas forcément par les apparences, j'allais dire.
Alors, si je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour changer, qu'est-ce qui a changé entre la jeune fille que vous étiez et la dame que vous êtes devenue ?
Je crois que je suis devenue moi-même. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse de vous parler, c'est l'intérêt pour le Sud. Parce que, bon, étant tourangelle, j'ai vécu dans une atmosphère, dans une ville, dans une région qui était la région des rois de France. François Ier, les châteaux de la Loire, etc. C'est l'endroit où on parlait le meilleur français. Enfin, j'avais eu un sentiment de supériorité sans faille, jusqu'au jour où j'ai rencontré, c'est quand j'étais en formation de psy d'ailleurs, un collègue qui était toulousain et qui parlait avec un accent toulousain, etc. Et qui m'a fait visiter Toulouse. Et alors là, j'ai eu un changement total. D'abord, j'ai trouvé que vraiment, du côté de la Loire, on exagérait un peu sur l'importance de cette culture-là, des rois de France. Bon, et que les comtes de Toulouse, tout ça, extrêmement important, les guerres de religion. Je me suis ouverte à une autre dimension quand je suis venue ici d'entendre parler l'occitan, de découvrir le foie gras. Enfin bref, c'était mon monde s'est transformé là. Et j'avoue que j'ai trouvé qu'on était très prétentieux dans notre région. À se penser être...
Le centre de la France.
Voilà, exactement. Voilà. Et alors, oui, alors ça, je l'ai écrit parce que justement, j'ai repensé à ça. L'importance du traité de Meaux en 1229, quand il y a eu le rassemblement entre le Nord et le Sud, quand Raymond VII a donné sa fille, la fille de Raymond VII, qui était Jeanne, a épousé Alphonse de Poitiers, qui était le frère du roi Louis IX. Donc, le rassemblement du Nord et du Sud a été, dans mon esprit à l'époque, quand j'ai appris tout ça, comme une grande victoire, qu'enfin, on était un pays entier. Et quand je suis venue un peu dans le Sud, je me suis aperçue que les Toulousains, enfin, les gens de autour, était pas du tout content que c'était pas juste, on les avait on devenait la France, mais ce Sud avait une culture et avait une existence par lui-même qui comptait au moins autant et qui n'avait pas été pris à son juste compte, quoi. Bon, donc tout ça, ça m'a vraiment intéressée, et c'est pour ça aussi que je me suis laissé aller, tombé amoureuse de Jean-Marie qui m'emmenait ici, et le plaisir que j'ai eu d'y venir et d'oser essayer de connaître mieux la façon de vivre, la culture et tout ça. Bon, maintenant, ma tête, elle oublie les choses, les dates, les événements, tout ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus ouverte à ça, et ça m'intéresse beaucoup. Quand je viens à Toulouse, j'essaie d'apprendre des choses. Enfin bon, donc c'est
plus ouverte.
C'est une ville, une ville de Tourangelle qui s'est qui s'est ouverte à la région de Toulouse, enfin du sud, parce que l'Aveyron, on n'est pas Toulousain, nous, on est Aveyronnais, mais on est Aveyronnais, alors
Martine, si je vous dis il n'y a pas d'âge pour déconner, comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Je ne sais pas si je déconne, mais des fois, je déconne malgré moi, parce que j'oublie des trucs. Alors, je rigole après, quand j'oublie, je descends et j'ai oublié ma clé. J'attrape des petits accents comme ça, des jeux de mots. Je m'amuse avec toutes mes incapacités, parce qu'autrement, je déprimerais, tout ce que je ne sais plus faire, de ce que je savais faire avant, mais bon.
Est-ce que vous pensez être heureuse ?
Ah oui, je pense que j'ai une vie réussie, ouais. Alors l'avenir, on ne sait pas ce que c'est, mais franchement, je suis contente. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, il y avait, il y a eu quand même un fil qui s'est poursuivi. Hein, et puis qu'il y a eu des moments où j'ai fait le saut. Bon, mais que ça avait du sens. Et puis je dis, mon père, là-haut, il doit être fier de moi, tout en riant, parce que, il sera, bien sûr qu'il n'y est pas, mais c'est bien de pouvoir se dire ça, même si ce n'est pas vrai.
Comment vous voyez la société d'aujourd'hui?
Bah écoutez, je vous en ai déjà parlé un petit peu, là. Je trouve que...
Est-ce que vous êtes du genre à dire c'était mieux hier?
Ah non, ah non, alors là, c'était jamais comme ça. Hein. Mais ce qu'on a par contre à franchir pour comprendre ce qui se passe avec les jeunes, et puis je vous dis, l'Internet, le portable, ça change la vie, ça change le regard sur les autres, ça change le rapport qu'on a à soi-même, puisque on peut ne jamais être seul. On est dans le monde tout le temps. Il y en a qui arrivent à utiliser leur intelligence pour comprendre beaucoup de choses. Bon, d'ailleurs, sur le plan pratique, déjà, ils utilisent là. J'aime beaucoup Michel Serres avec la petite poussette, là. Vous ne connaissez pas le livre, je dois l'avoir là. Poussette, c'est des pouces qui jouent avec
Oui, les PlayStation, les jeux vidéo.
Oui, et
Et puis
puis
les
voilà, c'est
portables.
ça, tout ça, toujours, voilà. C'est des pouces qui sont actifs dans la vie. Bon, et donc, ils ont beaucoup plus de culture, les jeunes, et ils sont ouverts à plein de choses. Bon, par contre, c'est aussi une fermeture à ce qu'il faut réfléchir pour la suite. Justement, réfléchir à ce qui nous dérange et qu'il faut quand même aborder, quoi. Bon. Mais non, non, je suis intéressée, moi, par ça, mais pas du tout technique. Bon, ça, mon mari m'emmerde là-dedans. Enfin, c'est moi qui l'emmerde parce que tu m'expliques ça et ça, tu pourrais pas me réparer ça parce que. Non, c'est vrai que je ne suis pas du tout technique comme ça, et puis je ne suis pas scientifique, ça, y a pas.
Vous m'avez dit que vous étiez plutôt heureuse de la vie que vous aviez eue. C'est assez rare qu'on me le dise, donc c'est pour ça que je le note. Mais donc, si vous aviez refaire votre vie, qu'est-ce que vous auriez changé?
Ah ben ça alors, peut-être que j'aurais eu plus d'enfants. Oui, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'enfants. Ma fille, Dieu sait qu'elle est chouette, hein. Vraiment, je l'admire beaucoup. Et puis elle m'en a donné deux petits. Et puis ça, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup pour moi dans cette famille surtout. Mais autrement, à part ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Je suis contente, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Je suis bon, enfin bon.
Qu'est-ce que vous allez faire demain?
Non, je vais retourner dans ma vie, et mon esprit, c'est d'essayer de savoir faire des plaisanteries, jouer avec les gens, leur raconter des trucs qui les intéressent, moi les intimider par des questions qui les angoissent un peu ou je sais pas quoi. Enfin bon, faire ça. Être un peu plus sérieux dans la musique, dans mes petites chorales que je fais là. Et autrement, je continue dans mes lectures, dans mes réflexions, et je vous dis sur l'Europe. Je suis très, très intéressée, très inquiète pour l'Europe, pour la suite. Et comme, bon, d'où je viens, et avec la guerre et avec les drames que j'ai connus, je sens que si on s'ouvre pas, si chacun se replie sur soi, mais. C'est pas un monde agréable pour, enfin, c'est pas un monde pour les jeunes, pour ceux qui vont venir après nous. Hein. Je pense à ma fille, mais j'ai beaucoup de neveux aussi. Oui, j'ai des contacts aussi avec mes neveux. Donc j'ai des différentes générations, je vois ce qu'ils deviennent. Bon, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins bien. Bon, ils sont dans la vie, quoi, c'est bien.
Merci beaucoup, Martine.
Et vous aussi.
Pour terminer cet entretien, nous écoutons le choix musical de Martine, Barbara, l'aigle noir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, sans un bruit sa mantelle, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant. M'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un air.